Il n'y a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap ou de politique.
Ce résultat est historique. Je suis la candidate du peuple.
Cette marche citoyenne, cette insurrection.
C'est l'heure de votre rendez-vous avec la vie politique en France. Voici Dimanche Politique.
Philippe Le Caplin.
Avec Romain Ouzoui, ce que disent les uns et les autres. Et nous décrypterons cette parole politique avec vous, Bruno Jambard. Bonsoir. Politologue, et vous êtes directeur général d'Opinionway. C'est une annonce qui fait la une de l'actualité politique en pleine réforme sur les retraites. Emmanuel Macron renonce par avance à sa future retraite d'ancien président de la République. Le chef de l'État qui a fêté hier ses 42 ans a également décidé de ne pas siéger à l'avenir au Conseil constitutionnel dont les anciens présidents sont membres de droit à vie avec une indemnité de quelque 13 500 euros par mois. Emmanuel Macron sera donc le premier président à renoncer au bénéfice de la loi d'avril 55. En vertu de ce texte, les anciens chefs d'État se voit verser à vie, dès leur départ de l'Élysée, une pension de 6 220 euros bruts mensuels. Voilà pour les faits. Venons-en aux commentaires, Romain.
Et ils sont acerbes, ces commentaires, du côté de l'opposition qui rapidement est montée au créneau ce dimanche. Énième opération de communication dénonce Debout la France, le mouvement de Nicolas Dupont-Aignan. À gauche, le secrétaire national du Parti communiste fait part de son émoi. Fabien Roussel était ce matin l'invité du grand rendez-vous Europe 1, CNews, Les Échos.
C'est un luxe que tout le monde ne peut pas se payer. Que le président de la République, les ministres, les sénateurs, les parlementaires, les députés soient alignés au régime général, c'est la moindre des choses. Il était temps que l'on y mette fin. Mais ce que je veux dire, c'est que de la part de ceux-là, ce n'est pas difficile d'y mettre fin, puisqu'ils brassent tellement d'argent sur leur compte en banque, comme M. Delevoye, qui ne s'est pas rendu compte qu'il touchait 5 000 euros de salaire, tellement ils brassent d'argent, c'est quand même facile de dire « Oh ben, je peux m'en priver, je vivrai bien quand même ».
Voilà, déconnexion totale donc de la part du président de la République et de l'exécutif pour Fabien Roussel. Démagogie totale, selon Jean-Luc Mélenchon, le chef de file de la France Insoumise sur BFM TV à la mi-journée.
Je demande aux gens qui m'écoutent de bien comprendre la part de démagogie qu'il y a dans cette façon de parler. Parce que qu'est-ce que ça veut dire je renonce à ma retraite? Que vous aussi, vous pourriez y renoncer? C'est un peu, ça me fait penser, vous savez, à je ne sais plus quel personnage politique qui avait décidé de ne pas prendre ses congés de maladie. Quand on est malade, on prend des congés de maladie. Pas parce que ça nous fait plaisir, mais parce que le docteur le demande. De même, la retraite, c'est pas un privilège, c'est pas un superflu.
Alors, le parti présidentiel a répondu à ces critiques de l'opposition. Le patron des députés La République En Marche, Gilles Legendre, évoquant de la part du président de la République une décision presque banale, en tout cas logique dans le contexte de la réforme des retraites. On écoute Gilles Legendre.
C'est une décision logique. Nous allons voter bientôt la création d'un régime universel, donc unique de retraite. Je pense qu'il était important que l'on montre que, en effet, notre régime universel est vraiment universel. C'est peut-être symbolique, ce n'est en aucun cas démagogique.
Voilà, démagogique, Gilles Legendre répondant ainsi à Jean-Luc Mélenchon. Gilles Legendre, ce soir, sur LCI.
Directeur général d'Opinionway, Bruno Jambard, l'Élysée a précisé très rapidement, il n'y a pas de volonté d'affichage, seulement une volonté de cohérence de la part d'Emmanuel Macron. Autrement dit, la présidence ne veut pas qu'on puisse parler d'un simple coup de com, de communication.
Oui, évidemment, on voit bien la polémique qui s'est tout de suite installée. Ce que je trouve en fait assez surprenant dans cette annonce, c'est pas l'annonce sur le fond. À la limite, on a eu dans le passé des décisions comme celle de François Hollande de baisser le salaire du président quand il a été élu. C'est le moment. C'est-à-dire que on est en plein conflit social. Ça n'a pas été annoncé en amont du conflit social qui pourtant, pour le coup, était très largement prévisible puisque la grève du 5 décembre était annoncée depuis quasiment le mois d'octobre et que ça survient en plus le 22 décembre dans une période où les Français sont un peu moins attentifs à l'actualité. Il y a là quand même quelque chose qui obligatoirement jette un peu un doute sur la démarche parce que c'est vrai que ça aurait été beaucoup plus cohérent de le préciser dès l'annonce de la réforme.
En même temps, si je puis dire, ce renoncement est finalement d'une logique absolue, dans la mesure où le régime de retraite du président de la République est un régime spécial et que le gouvernement veut supprimer tous les régimes spéciaux.
Oui, on aurait pu penser, on peut penser comme cela, et en même temps, on sait d'ores et déjà qu'on n'est pas dans un régime totalement universel, puisque les militaires vont y échapper, les policiers vont y échapper, peut-être probablement quelques autres professions très spécifiques, notamment dans le secteur de la sécurité. Donc on voit de toute façon là aussi la difficulté de cet argument, qui était un argument très fort du gouvernement en faveur de sa réforme, c'est-à-dire l'idée que tous les Français auraient le même système, le même régime, et on voit que d'ores et déjà ce n'est pas le cas. Alors effectivement, l'alignement du président, est-ce qu'on peut vraiment comparer à une fonction qui de toute façon ne peut être exercée au maximum que pendant 10 ans avec un métier qui doit l'être pendant une quarantaine d'années pour toucher sa retraite? C'est aussi quelque chose qui interroge.
L'ancien ministre socialiste Ségolène Royal a considéré que la vraie question, je la cite, c'est de savoir s'il renonce à retourner à l'Élysée, après l'Élysée, dans le monde du business mondialisé, avec des énormes retraites chapeaux qui vont avec et dont les montants sont sans commune mesure. Voilà ce que dit donc Ségolène Royal. Bruno Jean-Marc, est-ce que ce qu'annonce le président de la République, ce ne serait pas une manœuvre pour le chef de l'État afin de se défaire définitivement de ce sparadrap du président des riches?
Je crois que c'est une volonté, en tout cas, de répondre à quelque chose qui était très fort au moment des Gilets jaunes et du grand débat, qui était cette idée qu'il y avait des catégories, notamment dans le monde politique, qui étaient en dehors de l'égalité et du système que vivaient les autres Français. Donc c'est de montrer qu'on est, comme les autres, concernés par cette réforme. Maintenant, est-ce que ce sera suffisant compte tenu aussi du fait qu'il y a toujours cette ambiguïté dans l'opinion publique entre on voudrait un président à notre image et en même temps on est dans une vision très monarchique de la présidence et on attend quand même quelqu'un qui soit très en hauteur, très en retrait par rapport au monde politique traditionnel, et cette ambiguïté-là, je ne suis pas sûr qu'elle soit levée par cette annonce et par cette décision.
Vous écoutez Dimanche Politique sur RFI. En ce moment, dans le métro à Paris, ne circulent que 2 lignes, des lignes automatiques sans conducteur de rame. Situation très compliquée également pour les chemins de fer. Le mouvement continue donc malgré la proximité de Noël, quand les gens rentrent dans leur famille ou s'accueillent les uns chez les autres. Et pourtant, présidents et gouvernements appellent de leur vœu une trêve dans la grève, Romain.
Écoutez plutôt, effectivement, Philippe, c'était hier soir, Emmanuel Macron s'exprimant depuis Abidjan.
Les mouvements de grève se justifient. Ils sont constitutionnellement protégés. Mais je crois qu'il y a des moments dans la vie d'une nation où il est bon aussi de savoir faire trêve pour respecter les familles et la vie des familles. Voilà, donc j'appelle chacun à cet esprit de responsabilité bien compris. Chacun comprendra que la trêve ne veut pas dire l'acceptation, l'abandon, mais simplement l'esprit de responsabilité et le respect dû aux Françaises et aux Français qui parfois sont séparés et veulent se retrouver dans ce moment des fêtes.
Alors là encore, comme à propos de la décision d'Emmanuel Macron de renoncer à sa retraite de président, l'appel à une trêve a fait bondir l'opposition. Et comme souvent, ce sont les mots choisis par le chef de l'État qui ont choqué. L'esprit de responsabilité a dit à 2 reprises Emmanuel Macron. Réaction de Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste.
Je trouve que le président de la République, de s'exprimer depuis l'étranger, en Côte d'Ivoire, en appelant les syndicats, en les traitant d'irresponsables, je trouve qu'il y a une forme d'arrogance et de mépris de sa part. Aujourd'hui, c'est dur dans notre pays. Nous vivons une période de tension sociale très dure. Je pense que plutôt que de s'exprimer de l'étranger, il ferait mieux de venir s'occuper de ce qui se passe dans notre pays, de lever cette réforme de retraite et puis de dire on se retrouve tous autour de la table en janvier et on remet tout à plat. Voilà la bonne décision qu'il devrait prendre plutôt que de nous traiter d'irresponsables.
Les mots de Fabien Roussel donc ce matin sur Europe 1. Gilles Legendre lui a répondu ce soir. Le patron des députés de La République En Marche était sur LCI.
C'est le langage automatique. Nous en avons l'habitude depuis 2 ans et demi. Heureusement, ça ne nous a pas arrêtés, pour transformer le pays, ni pour écouter de façon extrêmement attentive et en tenant compte de ce qu'ils nous disent, les Français qui ne sont pas d'accord, ou les organisations syndicales. Mais dans un pays raisonnable, quand un projet arrive sur la table et qu'il ne met pas d'accord tout le monde, ça arrive dans tous les pays, la première chose ne consiste pas à faire grève et à bloquer le pays. La première chose consiste à discuter, à négocier.
Et à travers ces mots, à nouveau, le dialogue de sourds entre l'exécutif et les grévistes. Grévistes et à travers eux, eh bien, les syndicats. À côté de qui Jean-Luc Mélenchon se range, le chef de file de la France Insoumise, qui ce dimanche a lancé un appel.
Le 24 décembre, j'irai sur un piquet de grève parce que je veux montrer ma fraternité, mon empathie humaine. Et je vais dire quelque chose de plus. Je demande aux organisations syndicales, qui sont maîtresses du mouvement, parce que c'est elles qui mènent ce mouvement, de nous appeler à constituer un comité national d'action pour qu'on se retrouve tous et qu'on ne recommence pas ce que je considère comme une bêtise, une erreur en tout cas. D'un côté les syndicats, de l'autre côté les forces politiques, d'un troisième côté les associations.
Jean-Luc Mélenchon ce dimanche sur BFM TV, là, derrière ces mots, chacun tente de tirer profit politiquement de la mobilisation contre la réforme des retraites, à l'image de Guillaume Pelletier, vice-président du Parti Les Républicains.
Les Français, aux deux tiers, disent « il faut une réforme des retraites ». Et nous sommes nous les seuls à dire la vérité. On pourrait être comme les extrêmes à dire « pas de réforme, ça sert à rien ». Nous serions des imposteurs. On pourrait soutenir le gouvernement en disant « Oh, tout ça, c'est pas très grave ». Non, c'est grave parce que tout ça relève d'une injustice profonde. Si les Français veulent une réforme des retraites juste, la seule formation politique qui propose une mesure d'âge pour sauver l'équilibre budgétaire des retraites et des mesures de justice sociale, c'est les Républicains.
Voilà, Guillaume Pelletier, vice-président donc des Républicains, ce dimanche sur LCP.
Bruno Jean-Bart, de Pignonouet. Vos confrères de l'IFOP dans le JDD estiment dans leur grève-mètre que 51% des Français soutiennent le mouvement. C'est 5% de moins qu'au début de ce mouvement. Alors que lors de la grève de 95, déjà contre la réforme des retraites, hein, la sympathisation avec les grévistes allait croissante. Est-ce qu'il y a un essoufflement?
Non, j'ai pas tout à fait cette interprétation. Ce qui me frappe beaucoup dans les enquêtes d'opinion depuis le début du mouvement, c'est que ça bouge très peu. Et qu'en fait, personne ne prend l'avantage. Ni le gouvernement avec une forme de baisse très sensible et très forte du soutien au mouvement ou de l'opposition à la grève, ni les grévistes avec, effectivement, comme en 95, une augmentation régulière et assez continue du soutien au mouvement. Et donc, il y a une forme d'enlisement du conflit entre les syndicats et le gouvernement, mais il y a aussi une forme d'enlisement dans l'opinion publique du mouvement, c'est-à-dire chacun reste sur ses positions, et c'est probablement ce qui, d'ailleurs, fait que ça ne bouge pas beaucoup pour le moment. C'est que personne n'a le sentiment qu'il est finalement lâché par l'opinion, et personne n'a intérêt pour le moment à bouger fortement. On verra bien comment les choses vont évoluer, notamment en janvier, quand la rentrée arrivera.
Donc pour l'instant, c'est match nul, diriez-vous, entre le gouvernement et les syndicats. Il n'y a pas l'idée que le gouvernement aurait obtenu la première manche en faisant accepter l'idée de créer un régime par points et obtenir l'adhésion à la suppression des régimes spéciaux.
Non, je pense qu'effectivement on est plus dans une sorte de statu quo, et quand on regarde les indicateurs, vous avez à la fois des Français, par exemple, qui chez nous disent que il faut que les syndicats appellent à la fin de la grève, et en même temps ils trouvent que le gouvernement, après la journée de jeudi, n'a pas fait assez de concessions. Donc on voit bien l'ambiguïté totale dans laquelle on est, et je pense que c'est assez indécis pour le moment l'issue en termes d'opinion publique de tout cela.
Au chapitre des concessions, puisque vous venez d'en parler. Il y a ce que dit le nouveau secrétaire d'État aux retraites dans le journal du dimanche. Nous ne reviendrons pas sur la suppression des régimes spéciaux, avertit-il. S'il est aussi péremptoire sur ces régimes spéciaux, beaucoup moins sur l'âge pivot à 64 ans, est-ce que c'est le signal qu'une porte est ouverte, qu'il y a, sans le dire, une sorte de donnant-donnant?
En tout cas, c'est évident que depuis le début, il y a une interrogation sur la réalité et l'envie absolue du gouvernement de maintenir cette mesure. Pourquoi ? Parce qu'il y a une volonté d'essayer de ramener la CFDT et l'UNSA probablement dans le camp de ceux qui acceptent de discuter. Et on sait que à quel point cette mesure est importante pour eux. Et ensuite, parce que il y a eu beaucoup, dès le départ, des ouvertures sur l'idée que tout cela était discutable, qu'après tout, si on trouvait une autre solution... on pourrait envisager de ne pas avoir cet âge d'équilibre. Donc, c'est évident que c'est probablement sur ce point-là que ça semble le plus près de changer et de bouger. Même si sur les régimes spéciaux, ce qui est difficile à voir, c'est que en renvoyant la négociation au sein des entreprises, on pourrait très bien avoir une suppression des régimes spéciaux, mais des régimes dans ces entreprises qui, au final, restent assez comparables à ce qu'ils sont aujourd'hui pour les salariés qui les perçoivent.
Donc, pour l'instant, on est dans une sorte de statu quo, dites-vous. Un soutien aux grévistes qui s'érode un tout petit peu. Ensuite, le mois de janvier, avec une reprise des actions marquée par une mobilisation peut-être en baisse, et entre-temps, le gouvernement qui essaye avec les réformistes, c'est-à-dire l'UNSA et la CFDT que vous citiez tout à l'heure, d'arriver à une sorte de compromis.
Oui, je pense qu'on est un peu dans ce schéma-là. Ce qui peut faire évoluer les choses sont deux, à mon avis, éléments. C'est un, l'impact sur l'activité économique. Alors même si c'est assez localisé, il est évident que dans cette période, notamment de fête, ça pourrait être quelque chose d'important parce que on est sur un niveau de croissance qui est pas très élevé, qui est un peu au-dessus de ce qui permet, par exemple, pour l'instant, de faire baisser le chômage. Il suffirait que le mouvement et l'enlisement amènent à plutôt une légère augmentation de du chômage de nouveau. Il n'est pas certain que ça n'ait pas des effets aussi sur l'attitude des différents acteurs demain.
Philippe Le Caplain.
En février 2017, Emmanuel Macron, alors candidat à l'élection présidentielle, avait qualifié sur une chaîne algérienne la colonisation de crime contre l'humanité, ce qui avait créé une vive polémique en France. Hier, devenu président de la République, il a signé et persisté. Vous l'avez entendu sur RFI et nous y revenons ce soir, Romain.
Oui, à l'occasion de la réforme annoncée du franc CFA qui va devenir l'écho, Emmanuel Macron a nouveau fait une sorte de mea culpa à propos du rôle que la France a pu avoir en Afrique. On écoute le président de la République.
Oui, la question du franc CFA cristallise de nombreux débats et de nombreuses critiques sur le rôle supposé de la France en Afrique. Donc, rompons les amarres, ayons le courage d'avancer, de regarder et de bâtir ensemble, en effet, un partenariat décomplexé. La France n'a rien à cacher. C'est pourquoi j'ai souhaité pouvoir mettre à plat l'ensemble des sujets pour écrire une page nouvelle. Page nouvelle de notre histoire commune, qui met fin aux oripeaux du passé, aux malentendus, parfois à des dispositifs qui n'avaient plus beaucoup de sens. Et je suis très heureux aujourd'hui d'être à ses côtés pour ensemble annoncer cette réforme historique majeure.
Emmanuel Macron, donc hier soir depuis Abidjan. Alors c'est l'extrême droite qui a réagi à chaque fois par écrit. Sur Twitter, Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement National, écrit ceci. En se vautrant dans la repentance, qui plus est à l'étranger, en ne retenant que les aspects négatifs d'un processus complexe, Macron salit l'histoire de France et met en danger nos soldats en Afrique, déjà soumis à une haine anti-française croissante. C'est irresponsable. Fin de citation. Et puis même tonalité du côté de Florian Philippot, qui a quitté le Rassemblement National pour présider le parti Les Patriotes et qui déclare « Vous reprendrez bien une petite dose de repentance, nos présidents ne savent plus faire que ça depuis 25 ans ». Fin de citation.
Bruno Jambard d'Opinionway, quel qu'il soit, celui qui occupe le palais de l'Élysée dans l'époque récente promet de tourner la page de la France-Afrique. Le fait d'en refaire un engagement aujourd'hui montre logiquement qu'elle est loin d'avoir disparu.
Oui, c'est évident. Il est évident qu'il y a toujours cette interrogation sur le rôle de la France en Afrique. Alors après, ce qui est certain aussi, c'est qu'Emmanuel Macron est d'une génération qui est très loin de cela. Et c'est probablement, il a à 42 ans, il n'a pas, lui, je dirais, eu ni dans son entourage, ni dans son parcours passé, à affronter cette question-là. Donc je pense que pour le coup, on peut aussi entendre les propos d'Emmanuel Macron de manière un peu différente de ce que ça pouvait être pour les présidents précédents qui avaient aussi une histoire et des partis politiques qui avaient une histoire vis-à-vis de la France-Afrique.
Mais est-ce qu'il est possible de distendre les relations entre la France et l'Afrique alors que la France est présente avec l'opération Barkhane qui consiste à protéger certains États africains du djihadisme ?
Non, et c'est là, en revanche, qu'il y a une ambiguïté. C'est qu'au moment où il nous reparle de cela, il a confirmé il y a quelques semaines, au moment du drame qui est survenu, que la France avait vocation à rester et que c'était important, même si on pouvait en débattre pour le moment, de poursuivre cette action. Et donc, évidemment, cette présence militaire française qui montre que certains pays d'Afrique ont besoin de cette armée française pour un certain nombre d'opérations contre le terrorisme rend aussi complexe et montre que c'est pas aussi simple qu'une simple déclaration de vouloir rompre cette politique un peu historique qui a toujours existé.
L'Afrique, peut-être un petit peu loin pour l'opinion publique française, sauf quand il y a des morts, finalement, pour la France, comme ce fut le cas il y a 3 semaines. Vous y faisiez allusion il y a de cela quelques instants.
Oui, c'est un sujet assez lointain. Déjà, il faut avoir conscience que la plupart des sujets de politique internationale sont sujets qui sont assez éloignés de l'opinion publique. Et par exemple, dans les campagnes électorales, on parle très rarement de ces enjeux internationaux, sauf vraiment quelques rares exceptions. Évidemment, quand vous avez une campagne qui survient juste derrière le 11 septembre, par exemple, c'est pas tout à fait la même chose. choses, mais globalement, ce sont des enjeux assez absents. Et alors l'Afrique, oui, encore plus, même si effectivement, c'est un enjeu extrêmement fort pour le monde politique et puis pour les acteurs économiques en revanche, parce qu'il y a aujourd'hui un développement économique très fort de l'Afrique, que la question de la place de la France dans ce développement se pose, et donc c'est un sujet qui existe dans les milieux économiques.
Merci Bruno Jambard, directeur général d'Opinion Way. C'était Dimanche Politique. Demain matin, Laurent Escure, secrétaire général de l'INSA, sera l'invité de la rédaction pour bien évidemment parler de la réforme des retraites et de la grève qui continue en France.